Le goût d'entreprendre. Le goût d'entreprendre. Une émission proposée par Doris Pradal en partenariat avec la Caisse d'Épargne, la Banque des entreprises et des professionnels de Midi-Pyrénées.
Bonjour à tous. Le goût d'entreprendre s'intéresse aujourd'hui à un secteur qui nous est cher, celui de la bonne chère, la boulangerie-pâtisserie. François Le Gallo et son épouse sont à la tête de la boulangerie Saint-Georges à Toulouse, classée parmi les 100 meilleures boulangeries de France. Alors comment se porte la profession? L'apprentissage doit-il être revalorisé en France? L'image, on le sait, de la boulangerie-pâtisserie française en Europe est excellente, dans le monde entier même. Nous en parlons tout de suite avec François Le Gallo. Comment devient-on boulanger? Il faut être avant tout passionné et avoir envie de faire plaisir à ses clients. Bonjour François Le Gallo.
Bonjour.
Vous partagez ces affirmations, j'imagine.
Tout à fait, oui.
Être passionné et avoir envie de faire plaisir.
Être passionné, avoir envie de faire plaisir, avoir beaucoup de volonté.
Oui.
Beaucoup de... de volonté. Il faut, comme on dit, remettre sans cesse... l'outil sur le métier, enfin, vraiment être présent tous les jours, toutes les nuits.
Ouais, ouais.
Donc voilà, c'est la passion, le travail, la volonté, oui.
Mais beaucoup de plaisir aussi.
Oui, évidemment.
Alors,
évidemment.
Qui êtes-vous? Vous avez une cinquantaine d'années.
Bientôt 58, oui.
Vous êtes boulanger depuis
20 ans.
20 ans. Donc c'est-à-dire que vous êtes venu, pardonnez-moi l'expression, sur le tard à la boulangerie.
Exactement. Je suis un reconverti. C'est un phénomène, on va dire, à la mode, les reconvertis en ce moment. Il y a beaucoup de reconvertis.
Vous avez changé, c'était vraiment un virage à 360 degrés.
Oui, oui et non. C'est-à-dire que j'ai fait une école de commerce. La boulangerie est aussi un commerce.
Mm-hmm.
Donc j'y retrouve aussi certaines compétences que j'ai apprises à l'école de commerce, où j'ai rencontré mon épouse, donc un élément important aussi, puisqu'on est deux dans l'entreprise.
Ouais, ouais.
On s'est rencontrés à l'école de commerce, on a eu un parcours classique, l'école de commerce, moi dans le commercial et elle dans le marketing, la pub, dans des grandes entreprises du style DIM, Moulinex, etc. Et puis, j'ai pas trouvé mon compte dans les entreprises, en fait, dans les entreprises... classique que dans lequel j'ai travaillé à Paris. Il me manquait quelque chose. Il me manquait ce que cherchent un peu les reconvertis actuellement, c'est-à-dire
l'humain.
L'humain,
ouais.
le travail manuel,
uh-huh.
D'accomplir une tâche du début jusqu'à la fin, de commencer et puis de voir le résultat.
C'est ça, de produire quelque chose
de
concret. En fait.
De produire quelque chose de concret. Et puis c'est aussi la reconversion et le pain, c'est pour moi aussi une histoire de rencontre avec mon épouse, mais aussi à l'école de commerce, j'ai retrouvé un ami qui est Olivier, qui est devenu mon ami et qui était fils de meunier.
Oui.
Et donc j'ai connu la boulangerie par ce biais.
Par la
matière première. Il m'a parlé de son métier avec passion, il en parle toujours avec passion. Et il m'a fait visiter son moulin, il m'a fait rencontrer des boulangers.
Mmh.
Et petit à petit, ça a trotté dans ma tête. Et voilà, j'ai assez vite compris que c'était le métier qui me correspondait. Quoi.
C'est pas un rêve de gosse, vous vous êtes pas dit à 5-6 ans, je veux devenir boulanger, c'est le rêve de toute ma vie, mais je vais faire des études en école de commerce pour...
Non, mais dans ma famille, il y avait quand même... mon grand-père était artisan menuisier,
ouais.
une belle entreprise qu'il a fait grandir, mais il a fait de l'apprentissage à l'âge de 14 ans, au début du 20e siècle, et donc c'était un milieu que je connaissais plus ou moins quand même. Hein. Dans ma famille, c'était quelque chose qu'on évoquait souvent. Enfin, ce que faisait mon grand-père quand il avait 14 ans, aller en entreprise du lundi au dimanche, pas le dimanche matin parce qu'il y avait la messe, mais il travaillait tous les jours en tant qu'apprenti.
Donc vous connaissiez les contraintes.
Et il a repris l'entreprise de son patron. Et il a transmis son entreprise à son fils, mon oncle. Et j'en connaissais, je connaissais quelque part les contraintes.
Mais ça vous a donné envie d'avancer, envie d'entreprendre.
ça m'a donné envie et ça, et je quelque part, et j'avais conscience que c'était possible. Si mon grand-père l'avait fait, pourquoi pas moi?
Une douzaine de salariés aujourd'hui, vous êtes une boulangerie d'importance qui compte sur Toulouse. D'ailleurs, vous avez été classé par le magazine Bottin Gourmand parmi les 100 meilleures boulangeries de France. C'est beaucoup, 12 salariés dans une entreprise d'une boulangerie?
Ben, on n'a pas commencé à 12, on a grandi en l'espace de 12 ans. Puisque ça fait 12 ans, on a commencé plus petit et on l'a fait grandir. Oui, c'est beaucoup. C'est beaucoup parce que c'est beaucoup de responsabilités pour nous. On est redevable à nos employés de tout le travail qu'ils font pour nous parce qu'on travaille ensemble. Moi, je travaille dans le fournil toutes les nuits et je travaille avec mes employés qui sont aussi quelque part mes collègues. On fait exactement la même chose. Je pétris, j'enfourne, je fais de tout, du nettoyage, enfin toutes les tâches qui sont les nôtres en boulangerie, et je les fais comme le font mes employés ou mes apprentis.
Vous êtes
un prêtre. On partage l'espace, on se partage le temps et on partage le travail. Donc on partage aussi des moments, des discussions quand on a un petit peu de temps. On partage beaucoup de choses. Oui.
Vous êtes un patron qui mettait la main à la pâte, pour ne pas faire de jeu de mots. Alors quelle est votre force, votre spécificité? Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui une boulangerie peut être, entre guillemets, meilleure qu'une autre? La qualité, évidemment, des produits que vous vendez.
Oui.
La qualité de la matière première.
Oui, alors... Quand on s'est installé avec mon épouse, quand on a repris cette boulangerie, puisque c'est une reprise, cette boulangerie existait depuis, selon les archives municipales, depuis 1840. Donc on a repris une certaine responsabilité, une histoire derrière nous, et avec une volonté, oui, affirmée de faire de la qualité. J'avais une expérience de boulanger en tant qu'employé dans différentes boulangeries à Paris. Essentiellement, et bon, on avait une idée assez précise de ce qu'on voulait faire. On est allé, moi par mon travail, et puis en allant voir des collègues boulangers un peu partout, à Paris, en France, on savait déjà ce qu'on voulait faire. Et donc, axé sur la qualité et axé notre développement sur le pain. Ça peut paraître paradoxal de dire ça pour une boulangerie, mais il faut savoir que depuis quelques années, le chiffre d'affaires des boulangeries se développe beaucoup sur ce qu'on appelle le snacking. Nous, on a évidemment développé cette partie-là, parce que c'est indispensable pour développer un chiffre d'affaires et faire grandir nos entreprises.
Et puis il y a une demande forte aussi des clients.
Il y a une demande forte des clients. Notre emplacement Place Saint-Georges nous oblige un peu à ça. Mais on n'a jamais perdu de vue qu'on voulait que ce développement se fasse à partir du pain, de la valeur du pain. Et bien sûr, on a
de la qualité du produit.
De la qualité du produit. De ce que nos clients retrouvent ou trouvent ce qu'on attend sur le pain, c'est-à-dire des produits chez nous plutôt assez cuits, avec du croustillant, avec des produits qui ont des longues fermentations, qui sont bien hydratés, donc qui ont ensuite une bonne conservation. Voilà, des choses finalement assez simples, assez banales pour un boulanger, mais des choses...
Le goût des bonnes choses.
Voilà, des choses basiques qu'on doit retrouver dans un pain.
On y revient aux bonnes choses, aux produits naturels. Ça, c'est indéniable, vous l'avez constaté, vous aussi.
Bien sûr.
Est-ce que votre métier fait rêver? Ça sous-entend une deuxième question. Est-ce que vous arrivez à recruter facilement?
Oui, notre métier fait encore rêver. Alors, on recrute de deux manières. En fait, on n'a pas finalement trop de soucis à recruter. Les gens viennent plutôt vers nous.
Ouais.
On va dire notre réputation, notre emplacement, la façon dont on travaille depuis 12 ans fait que petit à petit, voilà, les gens, on a plutôt de la chance, les gens viennent vers nous. Donc, quelque part, on va dire, on aurait plutôt le choix. Donc quelque part, oui, on fait rêver notre métier, ou nous-mêmes, enfin, je ne sais pas, il faut rester modeste, mais on fait encore rêver. Mais alors on recrute de deux façons, soit des jeunes en apprentissage, soit des gens en reconversion aussi. Donc il y a les deux côtés, ça fait rêver des jeunes, ça fait rêver des moins jeunes aussi.
Est-ce que les émissions de télé, par exemple, peuvent influencer les gens qui sont en reconversion? Est-ce que vous avez des profils de ce type?
Alors oui, ça fait. Moi, j'ai l'impression que ça touche plutôt les jeunes. Mais à dire vrai, non. Pourquoi pas? Oui, aussi les gens en reconversion, parce que moi, ces émissions, je les regarde pas. Je peux pas. C'est trop tard
tard
le soir.
Vous savez qu'il y a des replays.
Oui, il y a des replays, mais bon, quand je rentre chez moi, c'est pour me reposer, c'est pas forcément pour revoir des gens travailler devant moi. Mais mais voilà, j'imagine que c'est des émissions qui sont très populaires,
ouais.
qui ont une énorme influence.
Bien sûr, il faut faire
le
buzz.
On ressent, on en
fait.
Parle beaucoup. Et forcément, ça touche les gens qui souhaitent se reconvertir. C'est un métier qui fascine quelque part. Parce qu'il y a ce que j'ai évoqué, c'est qu'on, c'est un des rares produits qui, dans la même journée, on peut aller de la matière première au produit fini.
C'est ça.
Si vous faites, j'évoquais mon grand-père qui est menuisier, c'est plus difficile d'aller de la matière première au produit fini dans la même journée.
Tout à fait.
Il y a un côté magique de la baguette
croustillante qui sort.
Vous mettez de la levure, vous mettez quatre éléments, de la farine, de l'eau, du sel, de la levure. Et en quelques heures, en respectant les temps de fermentation, vous avez quand même un produit, en plus un produit vivant qui bouge, qui gonfle, qui n'est pas facile forcément à manipuler, mais qui a une vie, puisqu'il y a des petits micro-organismes qui se promènent dedans et qui agissent sur la matière. Et donc c'est un produit magique. Vous le mettez dans un four, enfin comme un enfant qui fait un gâteau et puis qui regarde au travers de la vitre du four son gâteau prendre du volume,
qui gonfle,
strictement la même chose dans la boulangerie tous les jours. C'est-à-dire que on met le pain au four et puis on jette un petit œil pour voir si tout va bien, quoi. D'abord, si on n'a rien oublié, mais pourquoi pas, mais aussi parce que c'est magique, ça reste magique au bout de 20 ans de voir ça, quoi.
Et ça reste aussi magique de se lever à 1h tous les jours. On va en parler dans un instant, François, vous restez avec nous. On parlera également du symbole lié au pain. Michel Dagra va nous rejoindre dans un instant.
Le goût d'entreprendre, Doris Pradal.
Et seconde partie de cette émission avec François Le Gallo, artisan boulanger, artisan du goût, du savoir bien vivre et bien manger. Vous êtes installé à Toulouse, à la boulangerie Saint-Georges. Bonjour Michel Dagra.
Bonjour.
Vous êtes un de nos référents éthiques sur Radio Présence. Une histoire de pain, voilà qui vous passionne, Michel.
Oui, ce que j'ai entendu tout à l'heure me touche beaucoup. Il y a d'abord c'est cette valeur du travail, cette qualité, cette application, ce résultat. Et dans cette œuvre, dans ce bel ouvrage, je pourrais vous dire, il y a le process, cette visibilité du parcours qui part du grain de blé finalement, qui arrive au pain sur la table. Et nous sommes dans une culture où ce process n'est pas toujours visible. Et tout est parcellé, parcellaire. Je me souviens d'entreprises, le bonheur de personnes qui découvraient que les câbles qu'elles fabriquaient, les personnes sur l'établi, étaient positionnées dans un avion et allaient voir ce positionnement avait changé complètement l'ambiance. Hein. Voir. Et dans cette visibilité, on est souvent déçu parce que quand on voit à la télévision, par exemple, quelle est l'origine des produits alimentaires que nous mangeons, c'est pas toujours très, très réjouissant. On a l'impression de.
C'est inquiétant parfois, Michel,
c'est
on
même
peut le dire.
Inquiétant. Oui. Donc là, c'est le contraire. Il y a une visibilité très positive. Il y a du sens, finalement, dans ce que vous faites. Et qui va au-delà du pain lui-même, puisque on nourrit des gens. Vous nourrissez des gens. Proposer à des gens de se nourrir avec quelque chose de bon. Est-ce que vous pourriez compléter un peu cette manière de saisir un process dans une fabrication?
Le process, il commence même avant la boulangerie, d'ailleurs. Quand on s'est installé, il a fallu qu'on choisisse aussi un meunier. On a cherché un meunier dans la région. Et par chance, on a trouvé le meunier qu'on un peu le profil qu'on s'imaginait au départ, c'est-à-dire un meunier installé dans la région, donc là dans le Tarn. Un jeune meunier, il avait 28-29 ans à l'époque. Il démarrait l'entreprise qu'il avait repris à son grand-père. Et donc c'est une histoire aussi de correspondance, c'est-à-dire qu'on cherchait quelqu'un à notre dimension, quelqu'un qui était passionné par son métier, qui passionné par la recherche des bons blés dans la région. Voilà, avant qu'on parle de la proximité des circuits courts, nous on était déjà dans cet état d'esprit. Et puis une relation humaine avec notre meunier. Donc ce process, ce plaisir de maîtriser un peu tout le process, on le retrouve dès le meunier. Et c'est toujours le même meunier, François Maury, à Sorèze. Et c'est plus qu'une histoire de relation de fournisseur à client, c'est aussi maintenant un ami. On va voir des matchs de rugby ensemble, Stade Toulousain ou Castres.
Oui, en cassant la croûte, voilà. Avec un sandwich.
Ce que je veux dire, c'est... Oui, en cassant la croûte aussi. Et donc voilà, ce contrôle du process, il est aussi, bien sûr, chez nous, dans la boulangerie, les sacs de farine, eh ben, on l'ouvre, on fait les mélanges, on fait notre pain, et puis on va jusqu'à... on amène notre pain dans la boulangerie.
Vous êtes en train de nous parler de notre pain, là. Parce que le pain de la relation humaine avec les fournisseurs et aussi bien avec les clients en aval, mais il y a aussi le pain de votre équipe. Quand vous parliez tout à l'heure de ce travail en équipe où vous êtes aux manivelles, au pétrin plutôt, oui. comme les autres, on a l'impression que c'est une petite communauté de travail, là, où on est obligé de s'entendre, des fois dépasser des conflits, etc. Vous en parlerez de tout ça. Et justement, à propos du pain, le pain associe les contraires. Il y a de l'eau pour faire la pâte, il y a du feu pour le cuire. Donc j'imagine que cette eau et ce feu, peut-être j'anticipe, ça existe aussi à l'intérieur de ce pain humain que vous constituez avec votre équipe.
Oui, alors il faut, ça forge les caractères, c'est-à-dire qu'il faut, avoir du caractère pour faire ce qu'on fait, parce que ça demande, oui, comme je disais, une certaine volonté, une persévérance, il y a une passion pour ce qu'on fait, mais ça demande aussi du caractère pour savoir vivre avec les autres. C'est un travail d'équipe. Donc il faut, savoir se calmer les conflits et vivre ensemble. Et ça demande...
L'eau et le feu, c'est bien.
Voilà.
Travail d'équipe, d'autant plus que vous commencez très tôt. Vous vous levez à 1h du matin, c'est ça ? 1h30, vous êtes à la boulangerie, donc toute l'équipe arrive à peu près à la même heure.
Non, j'arrive le premier et je pars le dernier.
Ouais. Ce sont des horaires quand même qui sont difficiles.
Oui, alors mes employés arrivent la nuit aussi, et c'est humainement difficile, à la fois pour la famille, pour moi, enfin, parce qu'il faut s'adapter à un rythme, c'est une vie en société un peu différente, c'est-à-dire qu'il y a plein de choses que je ne fais pas. Mon épouse a des horaires un peu plus normaux, et elle peut participer à une vie sociale, elle a une vie de Toulouse, elle a participé à plein de choses à Toulouse depuis qu'on est là, à la chambre de commerce, dans plein d'organismes, et elle a eu une vraie vie sociale passionnante, hein, que je n'ai pas eue. Donc c'est un choix.
Justement, ça pose une question. Là, vous avez une vie rude. Vous êtes ici au micro, à l'antenne, et vous seriez aussi bien en train de vous reposer pour récupérer de la nuit.
Oui.
Donc, le descriptif que vous donnez, c'est quand même assez exigeant. Il faut du courage, de la volonté, du caractère, comme vous avez dit. Mais alors, comment se fait-il que, devant un type de travail aussi exigeant, ça fasse attirance ? Vous accomplissez un métier qui fascine. Il y a des gens qui viennent, ils sont masochistes ou quoi ? Il se passe quoi là ? Et ça m'intéresse d'autant plus. Ça m'intéresse d'autant plus que être attirant, moi, ça m'intéresse. Je voudrais bien que dans mon ministère ou l'église qui est à Toulouse soit aussi attirante. Donc si vous avez des trucs là, ça m'intéresse.
Ben, c'est ce qu'on développe, c'est-à-dire. Voilà, c'est. peut-être que dans trop d'entreprises, je dirais pas que le travail est trop facile, mais la difficulté, il y a un certain plaisir, je sais plus qui disait ça, mais à refaire tous les jours la même chose. Un peu comme Sisyphe qui repousse son
oui, Sisyphe, c'est un peu négatif, mais on peut dire.
Non,
c'est comme
non,
dire.
Parce que
on respire.
Il y a une philosophie de l'effort renouvelé oui. Toutes les nuits, oui. Pour moi. Et on y trouve quelque part. On est peut-être un peu
masochiste. C'est rassurant aussi. Non, c'est pas ce côté rassurant.
Oui, tout à fait. Et ce qui peut attirer, c'est oui, c'est ce partage aussi, cet esprit d'équipe. Enfin, moi, c'est ce que je trouvais attirant quand j'étais à l'extérieur, quand mon ami Meunier m'emmenait dans les boulangeries. Je voyais des gens qui, pas forcément très bavards, un peu taiseux, un peu rudes, mais comment des gens qui travaillent dans un si petit espace arrivent à travailler aussi longtemps ensemble? C'est que bien, forcément.
Comment n'y a-t-il pas inconsciemment aussi cette vérification qu'on fait une œuvre particulièrement positive du pain?
Oui.
Et ça doit peut-être être.
L'envie de faire plaisir, un symbole.
Et de vivre, tout simplement. Vous parliez de Sisyphe, moi je penserais plutôt à la respiration. Hein. On n'arrête pas de respirer, de faire toujours la même chose, mais on vit. Oui. Et c'est un peu. Il me semble qu'il y aurait quelque chose de comparable, ça. Faire un travail qui n'affiche pas son résultat, dans ce sens-là, au plan de la finalité ultime, mais qui quand même nourrit, hein, permet de vivre.
François, vous sortez de temps en temps de la boulangerie, vous sortez des fours, vous quittez les fours et vous allez voyager. On a compris que vous aimiez bien, c'est une passion avec votre épouse, mais vous partez amener la bonne parole en Europe. Vous êtes un ambassadeur du pain.
Oui.
Dans toute l'Europe. Alors, c'est-à-dire, vous allez rencontrer des jeunes en formation, jeunes, moins jeunes, professionnels.
Alors, c'est une action, on va dire, bénévole, mais qui correspond à notre engagement qu'on a par rapport à l'apprentissage. Mmh. On a depuis le début des jeunes apprentis qui travaillent avec nous, en boulangerie, en pâtisserie, et même dans la vente. Et la région Occitanie, notamment, a souhaité développer les échanges en termes d'apprentis.
Ouais.
Donc nous, chaque année, on envoie un apprenti en Belgique qui travaille dans des entreprises belges de boulangerie ou de pâtisserie. On a reçu, nous, cette année, une jeune apprentie espagnole. Et voilà, on essaye de développer ces échanges en Europe. C'est pour nos jeunes, français ou étrangers, c'est une façon formidable de valoriser leur métier. Et de se rendre compte qu'en allant voir un peu à côté, que finalement la formation, les compétences, qu'ils ont appris à l'école ou en entreprise sont vraiment formidables. C'est-à-dire qu'ils arrivent dans une entreprise en Belgique ou n'importe où, parce qu'il y en a qui partent dans d'autres pays en Europe, ils travaillent tout de suite. C'est-à-dire qu'ils rentrent dans l'entreprise le lundi et le mardi, ils ont à peu près compris toutes les tâches. Ils font toutes les tâches avec leurs collègues belges ou autres. Et ils se rendent compte que la formation qu'ils ont eue en France, elle est
valorisée.
Elle est vraiment valable. C'est-à-dire qu'ils se sentent à l'aise très très vite. Ils ont l'habitude de l'entreprise, du travail en équipe, des techniques boulangères ou pâtissières qui sont vraiment au point, enfin qui sont reconnues partout. Et ça, ils se rendent compte au moment de ce déplacement, ce qu'ils n'ont pas forcément conscience avant.
Vous pourriez le dire haut et fort également, vous les professionnels, pour revaloriser l'apprentissage en France, qui souffre quand même d'une image un peu malheureusement négative.
Qui souffre d'une image négative, puisqu'on fait souvent on pousse les jeunes à aller dans les études supérieures, même si ils y vont à reculons, et on ne considère pas l'apprentissage comme
une vraie voie.
Comme une vraie voie, une voie de connaissance.
Et d'excellence.
Et d'excellence.
Michel, une toute dernière question.
Oui,
un peu
tout à l'heure, dans
temps.
le l'intervention, là, je ne sais pas comment dire. Vous parliez du rapport avec vos concurrents locaux. Dites-nous un mot là-dessus, cette sorte de relation qui n'est pas une sorte d'attaque féroce, loin de là. Il y a quelque chose de très positif là.
Non, la concurrence est ce qu'elle est, et je pense qu'elle est positive, parce qu'on apprend de nos concurrents. Chacun de nous développe des compétences, des techniques, des nouveaux produits, etc. Et on regarde ce qu'ils font, et on essaye de faire mieux ou différent, et de se démarquer. Ça, c'est important.
On se prête la main quand...
Quand c'est nécessaire, moi, j'ai une boulangerie à côté de moi. Si c'est nécessaire et qu'il me manque, j'ai plus assez de sel pour finir ou commencer la journée, je vais frapper à sa porte et je vais lui demander ce qu'il faut pour démarrer la journée. Et ça, ce sont des choses qu'on fait très, très facilement.
Solidarité, efficacité. Merci. Exactement. François Le Gallo, merci Michel Dagra. Merci. Vous souhaitez nous contacter, c'est très simple, entreprendre@radioprésence.com. Merci de rester à notre écoute et d'être toujours plus nombreux à nous écouter pour le goût d'entreprendre.
Retrouvez cette émission sur decideurenregion.fr/midi-pyrénées. Le goût d'entreprendre. Une émission en partenariat avec la Caisse d'Épargne, la Banque des entreprises et des professionnels de Midi-Pyrénées.